Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Paul Petitier, qui est professeur à l'Université Paris-Diderot et qui est spécialiste de Michelet, à l'œuvre de qui elle a consacré de nombreux articles et plusieurs ouvrages collectifs, ainsi qu'une biographie sous le titre « Michelet, l'homme histoire chez Grasset », paru chez Grasset. Elle a réédité « L'histoire de France » et « L'insect » qui a paru ce printemps. Oui, alors elle va nous parler de l'épistémologie et de l'écriture du symbole chez Michelet. On y va.
Alors, je regarde.
Comment ?
Gardez-vous la boule.
Oui. Alors, il donne dans les théories les symbolismes micheletterie, kinetterie, j'y ai été aussi, je les connais, écrit Flaubert d'un jeune homme venu lui exposer ses projets littéraires en 1853. Flaubert n'est pas le seul ni le premier à ironiser sur un des mots fétiches de Michelet. Heinrich Heine, à Paris en 1843, écrit dans Lutèce « Sur sa manie des symboles, sur ses élucubrations continuelles dans le domaine du symbolisme, j'ai quelquefois entendu plaisanter d'une manière très amusante dans le quartier latin, et Michelet est appelé là Monsieur Symbole. » Alors je voudrais donc revenir sur ce symbolisme de Michelet que Flaubert aussi pointe dans sa correspondance à travers la formule « curieux symbolisme » qu'on trouve dans de nombreuses lettres. Le sujet ayant été traité par des prédécesseurs illustres et nombreux comme Jacques Sébachet, Pierre-Marc de Biasi, qui a parlé de la symbolisation et de la désymbolisation, Franck-Paul Baumann, ou encore plus récemment Gisèle Séjinger. Donc forcément, certaines des choses que je vais dire reprendront ce qui a déjà été mis en évidence, surtout dans la première partie, dans laquelle je voudrais revenir sur le symbole et l'herméneutique historique de Michelet. Mais j'essaierai de décaler un petit peu la perspective dans un deuxième temps en examinant plutôt l'écriture et la poétique, disons, du symbole moderne, du symbolisme moderne chez Michelet. Alors, d'abord symbole et herméneutique historique. En 1827, Michelet donne une traduction et une présentation des œuvres de Vico. Le jeune professeur, à l'époque aussi philosophe qu'historien, s'intéresse à la théorie de l'histoire de Vico, la succession des âges, les corsi et ricorsi, mais aussi à son herméneutique. Vico propose en effet de considérer les fables de la mythologie comme des narrations vraies, formulées dans une langue originelle constituée de tropes. La langue symbolique ou héroïque, comme il l'appelle, exprime l'abstrait par le concret, figure le collectif dans l'individuel, personnifie les forces naturelles et sociales, et reflète en cela un intellect encore immergé dans l'intensité de la perception. Belle infidèle, la traduction de Michelet multiplie le mot symbole, tandis que dans la Scienza Nuova, Vico n'emploie que deux fois le terme simbolo. On compte 16 occurrences de symboles dans le texte de Michelet. Lorsqu'il entreprend peu après une histoire romaine, Michelet met à profit les thèses de Vico. Il s'efforce d'interpréter les récits de la fondation de Rome en cherchant à la fois les idées et les realia contenues dans le vocabulaire et l'onomastique latine ou transposées dans les figures mythiques. Le loup, craint et révéré des pasteurs sabins, lui paraît, je cite, le symbole avoué du brigandage par lequel ces peuples ont commencé. Le meurtre de Rémus par Romulus ne désigne aucun homicide réel. Il métaphorise la dualité primitive de la cité. De nouveau, dans cette œuvre, le terme symbole et ses dérivés apparaissent fréquemment. J'en ai relevé 27 occurrences. L'avant-propos de l'histoire romaine me semble donner la clé, facile à deviner par ailleurs, de cette multiplication par le rapprochement que l'avant-propos fait entre la pensée de Vico et celle des philologues allemands plus récents. Je cite une phrase de cet avant-propos, « Comme Kreutzer et Goerrez, il, Vico, a fait voir des idées, des symboles dans les figures héroïques ou divines de l'histoire primitive. » En mettant en avant le terme « symbole », Michelet montre qu'il s'inscrit dans l'ère du temps, dans l'ère de son temps. En effet, en France, il y a une nette vogue du symbole sous la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. Mais en posant Vico comme l'ancêtre de toute la philologie moderne, aussi bien, précise-t-il dans le même texte, de Wolff que de Kreutzer, Görres, Niebuhr et Gans, Michelet affirme que ce qui lui importe, c'est un type de lecture des sources primitives, une méthode qui donne du crédit et du sens aux fables. Il s'abstrait de la querelle entre la symbolique et l'antisymbolique pour réorienter l'interprétation vers les représentations politiques et sociales. L'objet du philosophe italien a été en effet moins de prouver à travers les mythes l'unité d'une révélation originelle que de fonder la science nouvelle, celle de l'homme, artisan de son monde et de son histoire. Michelet annonce ainsi son intention de centrer son herméneutique sur l'homme et, pour revenir à ce que nous disions ce matin, donc d'arracher la symbolique et la lecture des mythes au domaine religieux, tout en conservant malgré tout la conscience et tout en intégrant à son écriture de l'histoire cette puissance religieuse des mythes. Comme Joseph Guignot dans sa traduction adaptation de la symbolique de Kreutzer, Michelet opère un déplacement des représentations religieuses vers le système des représentations sociales. Je m'appuie ici sur ce que Michel Espagne a dit de la traduction de Guignot dans une conférence qu'il a prononcée devant l'ITEM il y a quelque temps et que j'ai écouté sur Internet. Les éléments légendaires portent, selon Michelet, la mémoire des peuples. Il renseigne par exemple sur leur origine et leur migration. Dardanus est, je cite, un symbole de l'identité de toutes les tribus pélagiques. Dédale, le symbole de la colonisation de ces contrées par les industrieux pélages et leurs courses aventureuses. S'il y a un signifié majeur du symbole, n'excluant pas forcément les autres, c'est celui de la communauté, de sa conscience infuse d'elle-même et de son histoire. Sans doute, l'usage du terme « symbole » lié à l'herméneutique religieuse contribue-t-elle à nimber ce signifié d'une certaine sacralité. Temporellement, le symbolisme est le fait d'une humanité à l'aube de l'histoire, encore engoncée dans la matière. Géographiquement, le symbole est oriental, fruit des contrées où la nature domine encore l'homme. L'histoire, conçue comme un procès de spiritualisation, n'est donc rien d'autre qu'un travail de désymbolisation. Je cite toujours l'histoire romaine, « Ainsi l'humanité part du symbole, en histoire, en droit, en religion, mais de l'idée matérialisée, individualisée, elle procède à l'idée pure et générale. » Le cours de l'histoire peut donc se résumer à un lent passage du symbole à l'abstraction. L'histoire antique, telle que Michelet la lit dans l'histoire romaine, c'est Rome et la Grèce désymbolisant l'Orient. L'histoire moderne de la France est celle de la désymbolisation, plus ou moins dramatique, plus ou moins réussie, du Moyen-Âge. Dès le début du tome 3 de l'histoire de France, qui date de 1837, Michelet insiste sur ce tournant capital du XIVe siècle qui voit mourir les formes symboliques. Le symbolisme pontifical est bafoué par les légistes de la monarchie française, le symbolisme armorial obscurci, etc. La place accordée au procès des Templiers dans le tome 3 de l'histoire de France provient de ce que l'épisode donne matière à être présenté comme un drame du symbole. En effet, les accusations de sacrilège portées contre les Templiers parce que certains de leurs rites leur auraient fait renier Dieu ne reposeraient, selon Michelet, que sur de pieuses comédies prises au pied de la lettre par les accusateurs. Ainsi, écrit-il, l'ordre qui avait représenté au plus haut degré le génie symbolique du Moyen-Âge mourut d'un symbole non compris. Si son exténuation progressive détermine la marche de l'histoire, le symbole, par sa temporalité propre, qui est plutôt une négation de la temporalité, ou une temporalité très longue, presque immobile, Le symbole complexifie la dynamique du progrès et donne de l'épaisseur au temps théorique de l'évolution. Il représente en effet un principe d'inertie, de résistance, en lui-même parce qu'il a la pesanteur de la matière, mais aussi du fait qu'il se constitue en instrument de la domination des classes supérieures. Tel, dans la Rome antique, je cite, « le vieux mystère des formules juridiques, mystère qui naquit de l'impuissance de la parole, qui ne s'exprimait d'abord que d'une manière concrète et figurée, mais désormais entretenu à dessein, comme le dernier rempart qui reste à l'aristocratie. » Et l'on retrouve, me semble-t-il, le même saut que ce matin chez les auteurs dont parlait Philippe Dufour, c'est-à-dire ce passage d'une conception du symbole comme expression d'une pensée, d'un intellect primitif qui traduit par des métaphores l'expérience qu'il a du monde, a, dans un deuxième temps, une autre vision qui fait du symbolisme, au contraire, le moyen de domination donc d'une caste, le moyen de confisquer un savoir et, ce faisant, de conserver le pouvoir. Le symbolisme, en se perpétuant dans les temps historiques, s'identifie à un système politique, au pouvoir d'une aristocratie, religieuse ou militaire, à la confiscation du sens et de l'autorité. La démocratisation suppose au contraire l'ouverture de la pensée, l'explicitation du droit, bref, la sortie du symbolique. Plus le symbole devient l'instrument d'une domination injuste, à contresens de l'histoire, plus il se fait obscur, hermétique, effrayant. En maintenant le latin comme langue de culte au moment même où les langues romanes s'imposent, en s'enfermant dans le dogme du péché originel et de la grâce, l'Église catholique manifeste qu'elle se réduit à une logique de pouvoir. Je cite Le Peuple, « Le Moyen-Âge est pour l'enfant un terrible pédagogue. Il lui propose le symbole le plus compliqué qu'on ait enseigné jamais, le plus inaccessible au simple, c'est-à-dire le péché originel. » Par contraste avec ce symbolisme qui s'obscurcit et se pétrifie, se développe une autre langue que Vico appelle la langue vulgaire ou épistolaire et que Michelet nomme prose. Le passage de la poésie à la prose, de la féodalité à la démocratie, du droit symbolique au droit écrit, constitue autant de transformations solidaires. Alors, une citation un peu longue mais importante pour cette notion de prose et la façon dont elle regroupe les autres notions qui constituent ou qui s'opposent au symbolisme. Or, qui dit la prose dit la forme la moins figurée et la moins concrète, la plus abstraite, la plus pure, la plus transparente, autrement dit la moins matérielle, la plus libre, la plus commune à tous les hommes, la plus humaine. La prose est la dernière forme de la pensée, ce qu'il y a de plus éloigné de la vague et inactive rêverie, ce qu'il y a de plus près de l'action. Le passage du symbolisme muet à la poésie, de la poésie à la prose, est un progrès vers l'égalité des lumières, c'est un nivellement intellectuel. Ainsi, de la mystérieuse hiérarchie des castes orientales, sort l'aristocratie héroïque, de celle-ci, la démocratie moderne. Le génie démocratique de notre nation n'apparaît nulle part mieux que dans son caractère éminemment prosaïque. Et c'est encore par là qu'elle est destinée à élever tout le monde des intelligences à l'égalité. Et pourtant, dénouement surprenant, au terme de ce processus de désymbolisation, le comble du prosaïque s'avère un symbole. Paris, point central d'une Île-de-France surdéterminée comme prose, par contraste avec les provinces périphériques, là j'évoque à la fois l'introduction à l'histoire universelle et le tableau de la France qui reprennent le même schéma d'une description du territoire de la nation française, donc par ce mouvement circulaire qui aboutit à ce paysage prosaïque de l'Île-de-France, hein, sans relief, gris, terne. Eh bien, Paris, au centre de ce pays, de cette contrée prosaïque, Paris, hein, s'appelle symbole. Je cite « Comment s'est formé en une ville ce grand et complet symbole du pays ? Il faudrait toute l'histoire du pays pour l'expliquer. La description de Paris en serait le dernier chapitre. » Tandis que l'histoire progresse, enfin l'histoire avec un grand H si vous voulez, progresse en se délivrant du symbole, l'écriture de l'histoire, puisqu'il est bien question de cela, hein, il faudrait toute l'histoire du pays pour l'expliquer, l'écriture de l'histoire, elle, procède, semble-t-il, à une contre-marche. Alors, revenons-en, avant de nous pencher plus sur cette contre-marche, revenons-en à l'idiosyncrasie de Michelet, revenons-en à Monsieur Symbole. Michelet ne se contente pas d'appliquer au récit des origines les principes d'une herméneutique qui exhume leur signification historique. Le surnom que le quartier latin lui donne tient sans doute plutôt à son extrapolation du symbolisme. En effet, il n'interprète pas seulement des symboles, il en voit, il en forge. Il assigne de son propre chef à tel ou tel fait, pris dans les documents ou dans la réalité, une dimension symbolique, un sens métahistorique, sans préjudice du statut historiquement attesté de ce fait. Dans ses premières œuvres, Michelet transforme fréquemment un fait minime en ostensoire d'une idée générale. Un détail concret, par exemple la mauvaise qualité des sabres gaulois, hein, qui s'émoussent et plient au premier coup, appelle le commentaire suivant « vrai symbole de la race gaélique ». Ou bien encore, le biographique emblématise l'histoire collective. C'est à propos, je ne voudrais pas dire de bêtises, je n'ai pas vérifié, mais je crois que ce sont les Basques. Leur dernier roi, Sanche l'Enfermé, qui mourut d'un cancer, est le vrai symbole des destinées de son peuple. Cette façon de monter en épingle des faits secondaires est si caractéristique, je vous en cite deux exemples, mais j'aurais pu allonger la liste si le temps ne s'écoulait. Cette façon de monter en épingle des faits secondaires est si caractéristique qu'elle peut effectivement passer pour un procédé ou un tic. Si l'on se réfère à ce qu'il écrit dans la préface de son précis de l'histoire moderne, un manuel scolaire, en 1827, il se pourrait que Michelet voie là un moyen mnémotechnique. Le but auquel tend ce précis, explique-t-il, est de laisser dans la mémoire des élèves une empreinte durable de l'histoire moderne. Pour atteindre ce but, continue-t-il, il aurait fallu représenter toutes les idées intermédiaires, non par des expressions abstraites, mais par des faits caractéristiques qui puissent saisir de jeunes imaginations. Il les eût fallu peu nombreux, mais assez bien choisis pour rappeler tous les autres, de sorte que les mêmes faits présentassent à l'enfant une suite d'images, à l'homme mûr une chaîne d'idées. La pensée enfantine, analogue à la pensée primitive, n'étant frappée que par les images, il s'agirait donc de transposer dans l'écriture de l'histoire la langue symbolique des premiers âges, à la différence que l'historien maintient une double lecture, hein, idées et faits-images, comme dans une sorte de stéréoscopie. L'historien reprend la mission du prêtre pédagogue dans l'écriture de l'histoire, ce qui va de soi. Dans les symboles créés par Michelet, en effet, cette stéréoscopie est systématique. La relation d'analogie ou d'équivalence s'ajoute toujours à d'autres types de relations, d'ordre logique, ce qui maintient le symbole du côté de la rationalité. Vous avez peut-être fait attention tout à l'heure, dans la première citation, il disait, comme Kreutzer, comme Goethe, il voit des idées, virgule, des symboles dans les divinités. Alors, deux exemples supplémentaires. Le roi de France est, écrit-il, le symbole et le centre de la nation. Ou bien encore, le désert de Rome, aussi isolé sur la terre que Venise au milieu des eaux, est le triste symbole des maux qu'a fait cette vie urbaine, urbanitas, dans laquelle s'est toujours conclu le génie italien. Vous voyez qu'ici, le symbole double en fait une relation qui est une relation causale, la dépopulation de la campagne causée par l'hypertrophie de la ville. Le journal de Michelet enregistre régulièrement ce type d'encodage à propos des choses vues. Michelet, voyageur pressé, expérimente directement le court-circuit du sensible à l'idée pour fixer ses impressions. L'écriture diariste retrouve, dirait-on, la langue première des symboles afin de transcrire une expérience frappante mais passagère que le voyageur n'a pas eu le temps d'analyser. À Brest, voilà ce que note Michelet, belle rade, port étroit, on y étouffe moins de vie que je n'aurais cru, eau douce dans le port, symbole de notre insuffisance maritime, destruction lente de nos vaisseaux. Dans la cathédrale de Nantes, l'intérieur semble très haut, parce que l'église est courte. Je voyais dans cette hauteur étroite un symbole de la vieille Bretagne. Ces exemples le montrent, la relation symbolique surgit souvent d'un rapport spatial. L'expérience émotionnelle de l'espace, qui est vive chez Michelet, sensation d'oppression, euphorie de l'enveloppement, choc de la verticalité, se transpose en relations idéelles. On peut rappeler ici que Ernst Cassirer a montré le rôle crucial de l'expérience spatiale dans les élaborations symboliques. La position du corps dans l'espace déclenche l'interprétation par homologie. Dans les œuvres historiques, le symbole s'attache également à des dispositifs spatiaux. Rapportons-nous aux exemples que j'ai cités immédiatement auparavant, le roi symbole et centre de la France, ou bien la campagne déserte qui entoure Rome. De façon plus générale, l'espace est un symbolisant majeur de l'histoire chez Michelet parce que se reconstruit par son intermédiaire un lien sensible avec le passé. En effet, certains paysages annulent la différence des temps et laissent transparaître, comme le symbole son au-delà, le passé à jamais absent. Monsieur Symbole s'assagit cependant beaucoup au fil des années et les occurrences du terme diminuent significativement dans les œuvres d'après 1840. Alors j'ai fait une recherche d'occurrences, j'aurais pu vous la photocopier, sous forme d'un tableau, j'ai cherché dans tous les 17 volumes de l'Histoire de France le nombre, enfin les occurrences de symboles, symboliques, symbolisme. Si entre 1833 et 1840 on en trouve 20 à 21 dans chaque tome, on enregistre une baisse absolument radicale dans les années 40, 13 dans le tome 5, 7 dans le tome 6, 5 dans le tome 7 et 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 1 dans les tomes qui suivent. Sans exclure qu'averti de son surnom, le professeur se soit surveillé. Ça peut nous arriver. Il paraît plus probable d'établir une corrélation entre la rapide disparition du terme de l'Histoire de France et les prises de position de plus en plus antichrétiennes de Michelet. Le tournant se situe visiblement entre 1840 et 1844, c'est-à-dire dans les années justement où Michelet engage sa lutte contre les jésuites et le catholicisme, puis bientôt le christianisme. À l'appui de cette hypothèse, on constate que la réédition de 1852 du tome 1er de l'Histoire de France ne compte plus que 14 occurrences de symboles contre 20 dans l'édition originale. En 1864, dans la Bible de l'Humanité, œuvre consacrée à l'histoire des religions, Michelet tient à prendre ses distances avec la conception religieuse du symbole. Je cite Monsieur Guignot, un vrai savant, qui a usé sa vie dans l'œuvre immense de traduire, compléter, rectifier la symbolique de Kreutzer, a été chez nous, en ce siècle, le véritable fondateur de l'étude des religions. Ce maître aimé fut notre guide à tous. Les Renan, les Maury, tous les critiques éminents de cet âge ont procédé de lui. Il a ouvert la voie à ceux même qui, comme moi, penchent vers l'antisymbolique, vers Strauss, vers Lobeck. L'occultation du terme symbole ne signifie pas pour autant que Michelet se désintéresse de la question du symbolique à partir des années 40, ni qu'il cesse de pratiquer une écriture du symbolique. Sa polémique contre le catholicisme avive l'exigence d'un symbolisme moderne, soit d'une expression de l'idéal progressiste accessible au peuple comme aux gens cultivés. En 1847, dans la préface du tome 1er de son Histoire de la Révolution française, Michelet constate que la Révolution, l'événement fondateur du monde moderne, n'a pas de symbole. Je cite « Le champ de Mars, voilà le seul monument qu'a laissé la Révolution. L'Empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui seul l'Arc de Triomphe. La royauté a son Louvre, ses Invalides. La féodale église de 1200 trône encore à Notre-Dame. Il n'est pas jusqu'aux Romains qui naît les termes de César, et la Révolution a pour monument le vide. N'avoir pas de monument de pierre est un manque, mais seulement relatif. La Révolution, en effet, ne saurait avoir de symbole matériel. Pour autant, ce n'est pas qu'elle ne puisse être symbolisée, ni même qu'elle n'ait pas inventé un nouveau régime du symbole, un symbolisme anti-symbolique. La question du symbolisme moderne s'articule à celle de la discontinuité du signifié historique. La Révolution n'étant pas chez Michelet le prolongement du christianisme, mais une rupture avec ce dernier, elle ne peut s'inscrire dans le même paradigme symbolique. Son génie propre ne peut se couler dans la conception chrétienne du symbole, marquée par la dualité du corps et de l'esprit, par la théologie de l'incarnation, présentant l'idée de l'infini contenue dans une forme éminemment matérielle et finie. À bien y regarder, d'ailleurs, Michelet n'attendait pas l'histoire de la Révolution pour suggérer cela. Le tome 2 de l'histoire de France, dans sa construction même, indique très clairement, pose très clairement un symbolisme moderne qui est celui du territoire, symbole de la nation, décrit dans le tableau de la France qui ouvre le tome 2. Et puis, tout à la fin de ce tome 2, le magnifique passage des éclaircissements consacrés à l'art gothique, avec la cathédrale comme symbole de l'universel chrétien. Mais ce passage, tout magnifique et empathique d'une certaine façon qu'il soit, montre l'exténuation du symbolisme chrétien. Le symbolisme moderne, tel que la nation, tel que le territoire national l'emblématise, est à la fois plus naturel, plus réaliste et plus abstrait que le symbolisme chrétien. Plus naturel parce qu'il ne va pas chercher ses formes ailleurs que dans la nature, la terre, les paysages, et qu'il donne à voir cette nature, alors que le symbolisme des temps anciens, en personnifiant les forces élémentaires, interpose des masques entre elles et l'homme. Les livres d'histoire naturelle de Michelet constituent d'ailleurs un prolongement logique de cette tentative d'élaborer un symbolisme moderne naturaliste. Plus réaliste, le symbolisme moderne, parce que le symbolisant n'y est pas un artefact créé ad hoc. Il appartient, ce symbolisant, au monde de l'expérience quotidienne et profane, alors que l'architecture sacrée est créée pour être symbolique et se distingue du monde. Enfin, plus abstrait, le symbolisme moderne, parce que son caractère symbolique réside non dans sa substance, mais dans un ensemble de rapports. Si le territoire est un symbole, c'est par le jeu de ses différentes parties, par leur agencement, par l'harmonie de l'ensemble du dispositif. Le symbolisme moderne prend donc à contre-pied tout ce qui définit le symbolisme antérieur, réalisant la gageure d'un symbolisme anti-symbolique. Dans l'histoire de la Révolution, l'épisode des fédérations constitue, aux yeux de Michelet, le moment symbolique de la Révolution, celui qui aurait pu ouvrir l'ère d'une foi moderne. Je cite, « Plus d'église artificielle, mais l'universelle église. Un seul dôme, des Vosges aux Cévennes et des Pyrénées aux Alpes. Plus de symboles convenus, toute nature, tout esprit, tout vérité. L'homme qui dans nos vieilles églises ne se voit point face à face, s'aperçut ici, se vit pour la première fois, recueillit dans les yeux de tout un peuple une étincelle de Dieu. » Le symbole moderne ne repose que sur l'immanence. Il tend donc vers l'identité du symbolisant et du symbolisé. Il est réflexif, transparent, tautologique. Je cite, « C'est la beauté, la grandeur, le charme éternel de ces fêtes. Le symbole y est vivant. Ce symbole, pour l'homme, c'est l'homme. » Le symbole moderne ne saurait être qu'exotérique. Il se manifeste dans l'ouverture maximale de l'espace, le panorama, la fête et le spectacle en plein air. Je cite, « Les lieux ouverts, les campagnes, les vallées immenses où généralement se faisaient ces fêtes, semblaient ouvrir encore les cœurs. » On comprend donc que Michelet réinvestisse le terme symbole d'une de ses acceptions anciennes, celle de « formule dans laquelle l'Église résume sa foi », à l'instar du symbole des apôtres. Le symbole est fait pour expliciter le sens latin, l'expliciter en le concentrant. Ainsi, le credo du XVIIIe siècle, qui termine le tome 16 de l'Histoire de France par l'exposition de la foi des philosophes, parachève la pensée du XVIIIe siècle en formulant, c'est-à-dire en concrétisant et condensant dans le langage, les affirmations qui restaient latentes en elle. Donc, je crois qu'il faut interpréter ce passage bien connu de l'Histoire de France de Michelet comme le credo du XVIIIe siècle est un symbole moderne, forgé par l'historien. Enfin, le symbole moderne a pour fonction essentielle de signifier, en première comme en dernière instance, la fonction même du geste symbolique, c'est-à-dire la fondation de la communauté, la fraternité humaine, le pacte, le lien essentiel. Lorsqu'il tente d'imaginer sur quelle fête, sur quel rite, la République pourrait asseoir la consécration laïque de ses idées, Michelet n'en trouve pas d'autre que le banquet, l'acte social par excellence du partage des moyens de subsistance s'élevant à la représentation de lui-même. Le signifié du symbole n'est autre que sa fonction, lier, réunir, tenir ensemble. Mais la Révolution n'a pas réussi à formuler son credo. Elle n'a pas, du moins durablement, mis à part l'épisode de la fête des fédérations. Elle n'a pas réussi à inventer le symbolisme de l'âge moderne, grâce auquel elle aurait rallié durablement les masses. L'historien tente de pallier ce manque. Écrire l'histoire, c'est forger ce symbolisme nouveau, antisymbolique, prosaïque, démocratique, exotérique. L'histoire avec un grand H, j'y reviens, va du symbole à la désymbolisation, et dans une marche contraire, l'écriture de l'histoire resymbolise parce qu'elle réunit, reconstitue une totalité, ressuscite, rend sensible le devenir historique, fonction du symbole de relier le sensible à l'idée, montre l'homme à lui-même en tant qu'agent de l'histoire. On se réfère souvent à l'observation de Roland Barthes sur le double mouvement qui anime l'histoire michelettiste. D'un côté, je cite, le malaise du cheminement, de l'autre, l'euphorie du panorama, à la faveur de laquelle, écrit Barthes, un second plan d'histoire, fait d'intellection, se dévoile. L'historien passe pour un temps du travail à la fête. Barthes qualifie cette alternance de tempo existentiel. On peut interpréter, me semble-t-il, ce mouvement de la prose comme le balancement du symbolisme moderne. Chaque tome de l'Histoire de France compte un ou plusieurs de ces passages d'une texture particulière où l'histoire, qui sont des tableaux, mais où l'histoire se condense et se réfléchit. C'est-à-dire qu'en plus, il y a cette dimension de mise en abîme, cette dimension métahistorique. Et cela entre très systématiquement dans la composition des tomes. Donc le tableau de la France, par exemple, ou bien le début du tome 4 consacré au costume du XIVe siècle, cette espèce de vision comme onirique d'un bal dans la basilique de Saint-Denis, ou près de la basilique de Saint-Denis, où les costumes extravagants, les poulaines et les hénins du début de la fin du XIVe siècle apparaissent comme le symbole de l'époque, ou bien encore l'entrée des Français à Rome au chapitre 1er de Renaissance, le coup de Jarnac à l'ouverture du tome 9 de l'Histoire de France, la description de Versailles à celle du tome 14, etc. Pas d'autre substance que celle de l'histoire dans ces passages. On a là des anecdotes, le coup de Jarnac, de la géographie, le tableau de la France, de l'architecture, les cathédrales, par exemple les cathédrales, des costumes dans le bal, des usages, et pourtant ces tableaux constituent des mises en abîme, des moments où l'histoire se figure elle-même, s'expose dans des formes frappantes et mystérieuses, les costumes hiéroglyphiques, les scènes nocturnes, l'entrée des Français à Rome au début de la Renaissance, ou bien des passages où l'histoire se concentre en formules expressives, comme dans l'introduction de la Régence, autre passage de ce type, ou le credo du XVIIIe siècle dont je parlais tout à l'heure. Donc cette pratique, ce que j'appelle le balancement de la prose, entre ces tableaux qui symbolisent l'histoire et les passages où l'histoire chemine d'une façon plus au premier degré, me paraissent illustrer cette écriture moderne du symbole. Michelet, c'est ma conclusion, Michelet met en œuvre dans l'écriture de l'histoire donc un symbolisme moderne dont la particularité est de ne pas supposer de différence de nature, de niveau entre le symbolisé et le symbolisant. On peut résumer ainsi la différence qui s'établit implicitement pour cet auteur entre prose du symbolisme moderne et poésie du symbolisme ancien. Tandis que la poésie est symbolique, parlant toujours d'autre chose au-delà d'elle-même, la prose, elle, se symbolise continuellement. C'est pourquoi son symbolisme n'est d'aucune façon incompatible avec le réalisme. Il n'a pas à supposer une division du monde, une fracture entre le sens et ce qui le contient, une différence d'essence entre ce qui représente et ce qui est représenté. Aussi, l'admiration ambivalente de nos plus grands écrivains réalistes, de certains de nos plus grands écrivains réalistes, comme Flaubert, les Goncourt, Zola, pour l'œuvre et l'écriture de Michelet, me semble avoir un rapport avec cette prose symbolique qu'invente Michelet. Une prose symbolique qui peut apparaître à ses auteurs à la fois comme un idéal, celui d'une continuité entre réalité et forme symbolique par lesquelles celle-ci devient esthétique, mais en même temps comme ce qui est rejeté et constamment ironisé parce qu'elle est aussi l'illusion d'un sens consubstantiel au réel.
Alors, merci pour cet exposé extrêmement riche. Et j'ouvre directement la discussion. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ?
Et tout à fait dans l'enchaînement de ce que tu as dit en terminant, et que mentionne bien Barthes dans son regard sur Michelet, est-ce que ces gens comme Flaubert ou les Goncourt ne sont pas aussi sensibles au fait que peut-être le premier Michelet insiste à ce point sur la relativité essentielle de l'écriture historique qui est dans son énonciation, c'est-à-dire qui est un acte d'écriture. On fait beaucoup là-dessus, mais il est vrai que dans l'œuvre de Michelet, il y a cette découverte assez bouleversante qu'il n'y a pas d'histoire en dehors du geste de l'écrire, de l'énoncer, et que cette énonciation est le travail de l'historien.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai supprimé un petit... Oui, je suis pleinement d'accord avec toi sur...
Peut-être sans se le formuler, c'est quelque chose qui est complètement ancré chez Flaubert, en tout cas, de façon là-bas.
François Rien.
Oui, c'était tout à fait passionnant. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est une utilisation moderne, mais on s'aperçoit que le symbole, certains des exemples que tu as donnés, le symbole chez Michelet, qui m'avait d'ailleurs bientôt aussi intéressé, fonctionne souvent plutôt comme une exemplification, comme un concentré, comme sont épitomés. Par exemple, le glaive, c'est dans le glaive que se concentre quelque chose qui est le gaulois, de la Gaule, ou peu importe. Et donc, au fond, c'est comme la manifestation, c'est ce par quoi peut s'incarner une idée ou une pensée abstraite. Et c'est très différent de ce qu'on entend généralement par le symbole, où il y a une espèce de lien entre ce qui serait de l'ordre d'une présence et qui viserait vers quelque chose qui est absent dans un rapport de la finalité, de transcendance. Là, c'est véritablement la manière d'incarner, n'est-ce pas, l'idée dans son abstraction. Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est moderne ou pas, mais c'est très frappant. Et le deuxième point, alors ça, c'est autre chose, Sophie. Quand tu as fait allusion à l'introduction, à l'histoire de la Révolution, quand il va sur le champ de Mars, en descendant de sa chair.
Oui.
Et au trouble vide. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, justement le gros problème de la Révolution française, c'est qu'elle n'a pas trouvé, non pas ses symboles, elle en a plein, mais elle n'a pas trouvé la dimension symbolique dans laquelle incarner ses principes. C'est-à-dire que les principes de la Révolution n'ont pas trouvé le terreau symbolique. Quant aux symboles, il y en a multiples, ben, il faut tout ce que tu voudras, il y en a plein. Donc c'est bien ça. Et je pensais à des choses que vous connaissez, vous autres, vraiment beaucoup mieux que moi, qui est le terme peut-être qu'on traduit, on traduit très mal d'ailleurs, on l'a traduit assez récemment, qui est le manifeste du romantisme au romantique des frères Schlegel, où il écrit « Il nous faut une nouvelle mythologie ». Tu vois ce texte, où les frères Schlegel disent effectivement « Il nous faut une nouvelle mythologie ». Et chaque fois que j'ai lu ce texte très bien traduit en français, dont le titre aussi n'est pas exactement celui des frères Schlegel, mais comme l'allemand n'est pas une langue que je pratique.
Très mal religieux,
et très mal religieux, c'est parce que c'est lacunaire, hein. ce sont des fragments, c'est un peu chaotique, c'est pas du grand de clarté ce texte. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée de la nouvelle mythologie, c'est-à-dire au fond, justement le problème de Michelet, comment on va pouvoir ancrer dans du symbolique, mais pas traduire en des symboles, quelque chose qui est l'esprit de la Révolution, le vide d'ailleurs, l'esprit et ses principes. Alors ça m'a vraiment intéressé. Tu vois, c'est ça que je vois dans Michelet. Mm-hmm. Oui, c'est un rôle de texte. Non, l'induction est absolument dégueulasse. C'est toujours un peu.
Je trouvais très très intéressant que vous avez décrit un processus historique, un processus rhétorique. Hein, enfin, avec oui. Tout, cette notion de symbole, avec une figure paradoxale, enfin, un symbolisme anti-symbolique moderne. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai deux questions. J'ai eu l'impression que pour vous, ça marche. Alors, maintenant, j'ai pensé déjà à cet argument de Via Yannix, enfin, ce nom qui est très
compliqué. Via l'année. Oui,
Via l'année. Via l'année, enfin, oui. Qui disait toujours que le grand problème de Michelet, c'est qu'il y a tautologie. Hein, tautologie, c'est-à-dire qu'un symbole qui sera anti-symbolique, c'est tout ce que vous avez décrit. Est-ce que ça ne revient pas à une écriture absolument
oui, si, tout à fait, mais il l'assume.
J'avais une question. Ça se rapporte sur. Parce que, comme vous savez mieux que chacun ici, il y a donc ce conflit entre Rancière et Lefort sur. Oui. Sur le comment de ce procès. Hein, ce procès, disons, de sécularisation. Alors. Rancière, pour Rancière, ça marche, hein, dans ce sens que Rancière dit il y a rupture, il y a un commencement nouveau, etc. Pour Lefort, ça marche pas, parce que ça marche par une transposition, c'est-à-dire qu'on reprend les structures chrétiennes, il les montre très bien dans la cathédrale de Reims, dans la cathédrale de Sade, et on les transpose donc pour les remplir avec Alors, pour votre énoncé, alors, vous pensez comment, selon quelle structure, si je peux dire, ce processus rhétorique d'une mauvaise symbolisation orientale, catholique et tout, vers une bonne symbolisation anti-symbolique, moderne, rationnelle, grecque, romaine, enfin, bien.
Je ne sais pas si je vais vous répondre, si je vais vous répondre tout à fait, mais en tout cas, parce que, est-ce que vous voulez savoir si Michelet pense, enfin, comment Michelet se situe par rapport à Rancière ou Lefort?
Évidemment, non, comment vous, ce que vous avez écrit, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux théories qui expliquent Michelet, et qui sont très différents et qui sont enfin, opposées? Est-ce que vous pensez avec le fort ou avec Rancière? Est-ce que ça marche ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a transposition ou est-ce qu'il y a rupture?
Il essaye à toute force de penser une rupture. Maintenant, en même temps, la rupture qu'il essaye de penser ne cesse de reprendre des catégories chrétiennes et de les déguiser, de les comment dire, par exemple, il y a un
un très joli article de Claude Retta sur l'enfant chez Michelet qui montre que tout le combat de Michelet contre l'image du bambino de Jésus n'est que retourné dans l'image de la famille idéale dont l'enfant est comme le rédempteur dans nos fils, celui qui ouvre vers l'avenir. Michelet est un esprit, comment dire, homéopathique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est contre quelque chose, sa façon d'être contre cette chose est de la reprendre et de la retourner dans sa lutte.
C'est ce qui théorise explicitement dans la sorcière.
Voilà.
Michelet théorise dans la sorcière. Cette espèce puissante retournement qui va tout à fait ensemble, ce symbolisme. Rétro-tautologie.
Voilà.
Mais ça va jusqu'à une rhétorique brève dans la sorcière. L'âge d'or, c'est l'âge de fer. Pour le chapitre sur Philippe le Bel, l'âge d'or, c'est l'âge de fer. Voilà un gros symbolisme tautologique qui est tout à fait avancé.
C'était un émotif.
Est-ce que vous savez quelque chose sur la filiation de ce concept de prose qui m'a beaucoup frappé parce que. Tout d'abord, ça sonne un peu comme comme surtout la l'esthétique de mais si l'on entre, une fois on est dans Hegel, on ne sort plus pour arriver au symbolisme. Donc, comment oublier Hegel après l'avoir cité dans la rhétorique de la prose Hegel, en quelque sorte, me paraît avoir inventé. Il ne parle pas seulement d'un processus linguistique, mais de la prose des rêves, de la prose des conditions. Donc, c'est la description de l'état moderne, de la démocratie moderne. Mais après avoir avalé tout cela, comment arriver à un processus d'auto-symbolisation dans le concret, le réel
pas sûr qu'il ait lu, tu sais, dans l'esthétique, c'était déjà des anthologies ou des morceaux.
Mais ça ne fait rien.
Je comprends la question, elle reste en clair.
Mais une traduction à 43.
Oui, il y a une traduction.
Ça
soit touché tout prolongé.
Il y a un travail à rien.
Oui, ça peut être la même connaissance.
Non, là, je me déclare incompétente.
Non, c'est vrai, c'est en dynamique.
Pour l'expliquer.
Ça vient d'une histoire dynamique qui pourrait se remettre à l'endroit si on admettait qu'à la différence de Hegel, le projet de Michelet n'est pas de rendre raison à l'état achevé, d'une fin d'histoire constituée, mais au contraire de militer. Et c'est dans cette tautologie que tu as très bien décrite. Enfin, s'étonner de sa forme tautologique, c'est oublier qu'elle a une vocation pédagogique, qu'elle a une vocation d'engagement de l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire d'éducation, c'est-à-dire de militantisme. Hein. Je crois que c'est quand même ce qui caractérise profondément cette nécessité de revenir au symbole pour fabriquer une autre démocratie.
Il y a encore d'autres remarques ou des questions? Tout le monde est fatigué.
On a pas mal tenu les temps quand même. Hein. On a pas mal tenu les temps.
Alors.